Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Aujourd'hui, je vous parle de Catherine Dorion, mais tout d'abord, c'est aujourd'hui que je lance mon livre officiellement, donc mon livre « Oin Pi » sur « Apprendre à être contrarié ». Quand je dis « je lance mon livre », j'ai pas d'éditeur, hein, je me suis édité moi-même, donc vous le savez. Je ne vais pas m'éterniser ici, je pense que j'ai fait le tour. Si ça vous intéresse, allez sur marcboilard.com. Et puis, quand je parle de lancement, c'est que, tu sais, j'ai quand même... Je suis actif sur beaucoup de plateformes, sur LinkedIn, beaucoup. Twitter, j'ai deux pages Facebook. J'ai une chaîne YouTube avec pas grand monde, mais quand même. Ça fait que, dans le fond, tu sais, j'ai rédigé un message qui est différent pour certaines plateformes. C'est pas un message partout la même chose. Puis je vais enregistrer une petite vidéo que je vais faire en story, etc. J'ai une petite mini-stratégie numérique là, pour essayer de faire du bruit en même temps. Et en fin de journée, je parle de ça à la radio, au FM 93. Mais je ne vais pas parler du livre comme tel puis du contenu, ça ferait trop plug. Ça fait que ce que je fais, c'est que je vais aborder le contenu un peu, mais je vais surtout parler comment ça marche l'auto-édition. Alors, vous autres, j'en ai parlé de long en large, comment on fait pour sortir un livre sur Amazon. Mais ça va être intéressant. Un petit mot aussi en fin de semaine sur le WrestleMania qui était au stade AT&T à Dallas. C'est très, très impressionnant, la lutte. Vous savez, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Bon an, mal an, je l'écoute plus du tout comme avant. Alors, j'étais très assidu, mais il y a longtemps. Mais quand arrive cet événement-là, qui est quand même haut en couleur, parce que d'abord, c'est pas dans une aréna, mais c'est vraiment toujours dans des gros stades. Puis moi, j'étais au Colisée de Québec en mars 83, si je me trompe pas. Attends un petit peu. Non. En 83, c'était Hulk Hogan qui gagnait contre le Sheik. Je me souviens plus de la date comme telle, mais pour le troisième de ce qui était hier, qui est en fait le 38e quand même. Fait que c'est pour te dire que c'est pas d'hier que je suis ça. Puis j'étais au Colisée de Québec, puis c'était projeté sur écran géant. Je pense que ça n'avait jamais été fait, ni avant, ni depuis. Puis ils ont battu le record du monde à ce moment-là. Il y avait 93 173 personnes. J'étais un vrai Paul Hood de la lutte. Parce que c'était, et encore à ce jour, je pense, le record du monde dans un amphithéâtre fermé. Alors, il y a des stades au Brésil, je pense, au Mexique ou autre, où ce que des fois sont plus que 100 000, mais c'était à air ouverte. Là, c'est un peu comme un Indy 500. Là, et puis, il était 80 000 la soirée de samedi, puis à peu près le pareil, j'ai pas le chiffre précis, mais dans ces eaux-là, sinon plus, le dimanche, donc de ce week-end. C'est que vous avez bien compris, ils ont fait deux soirs. Ils ont fait deux soirs pleins dans le stade des Cowboys de Dallas. C'est que c'est 160 000 personnes qui sont allées en un week-end voir de la lutte. C'est vraiment hallucinant. Puis moi, le show de dimanche, je l'ai écouté moyen, mais le show de samedi, j'étais tranquille chez nous. Puis je l'ai écouté au complet, puis c'était vraiment impressionnant. Dans le sens que tout était au top, là. Tu sais, techniquement, la façon qu'ils ont monté ça. Et il faut bien comprendre une chose, là, puis je vais vous le formuler plus précisément que jamais. Tu sais, des fois, je suis très critique envers les médias, certains plus que d'autres, parce que, à la rigueur, étant un ancien gérant d'artiste, puis étant moi-même un gars qui génère beaucoup de contenu de toutes sortes de façons, je vois à quel point il y a des médias qui gèrent aucun contenu. Ils engagent des animateurs, puis ils leur parlent une fois par trois mois, tu sais. Gérer du contenu, c'est pas juste l'apanage de l'artiste ou de l'animateur. Un producteur, c'est quelqu'un qui sait comment faire du contenu. Quand j'entends parler de Guillaume L'Espérance, qui fait « Tout le monde en parle », puis qui fait « Discussion avec mes parents » avec Morancy, j'entends parler de quelqu'un qui maîtrise bien le contenu, pas juste quelqu'un qui remplit des demandes de subvention. Ce qui est souvent le cas des artistes qui pensent que c'est ça que ça fait un producteur, mais non. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui connaît le contenu. À défaut d'être 100% créatif, il est capable de le reconnaître puis de l'orienter, tu sais. Ça fait que la lutte, c'est ça qu'ils font. Je suis désolé. Que vous trouviez que c'est des gars qui se tapent dessus, ben moi, je peux vous répondre. Au théâtre, c'est du monde qui s'envoie des phrases dessus. Puis au hockey, tu sais, je veux dire, on peut tout réduire à des gestes, là. Mais la lutte, c'est bien entendu, c'est organisé, là. On sait très bien. Ils s'en cachent plus eux-mêmes. Ils appellent ça la World Wrestling Entertainment. Mais ce qui m'a impressionné, c'est à quel point, comment ils amènent les histoires, comment ils font le conflit. Parce qu'un combat qui est attendu, c'est un combat où tu as développé un conflit comme la boxe ou l'UFC, mais dans vraie vie, là, entre guillemets. Puis tu regardes comment le combat est orchestré, comment c'est marketé, comment c'est communiqué. Je veux dire, c'est de la vraie gestion de contenu. C'est pas important d'aimer le contenu ou même de le mépriser, je m'en fous. Je fais juste vous dire que quand tu contrôles, contrairement aux autres sports, quand c'est du vrai théâtre, puis que tu contrôles qui va se battre contre qui va gagner, de quelle façon, tu te rends compte que c'est de la gestion de contenu pour être capable d'amener 160 000 personnes à aller voir des trucs que tu as montés, scriptés de A à Z, il faut que tu saches réellement gérer du contenu. C'est extrêmement impressionnant. Tu sais, la Ligue nationale de hockey ne gère pas de contenu. Il gère une ligue avec... Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un vrai travail de créativité que fait la WWE. Puis j'étais très impressionné de voir à quel point ils ont réussi contre vents et marées. Parce qu'il y a eu des périodes creuses, il y a eu toutes sortes d'affaires. Ça fait que, donc, c'était spectaculaire, franchement. Puis moi, ben, j'ai toujours été... Quand je suis arrivé en télé, j'étais dans une démarche de lutteur. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, là, mais j'étais pas dans une démarche artistique. En un mot, j'allais pas, moi, à TV pour que le monde m'aime. J'allais délibérément pour qu'ils m'haïssent. Puis ça, je veux dire, ça s'est pas revu ni... Il y a personne qui a jamais fait de TV avec ça dans la tête, là, tu sais. Moi, je disais tout le temps la même chose. Du monde qui m'aime, il y en a plein déjà dans la vie. Là. Je suis très, très bien entouré. Que le monde, quand j'arrive à TV, m'haïsse, si c'est ça le show, c'est pas grave. Ça fait que j'avais un genre de job de paratonnerre, moi. On disait ça souvent, que j'étais le paratonnerre à Mike Ward. C'est-à-dire que Mike était haïssable dans le bon sens du terme, mais moi, j'étais détestable réellement pour la moitié du monde. L'autre moitié me trouvait très drôle. C'était hyper clivant. C'était génial de jouer ça, honnêtement. C'était vraiment hot. Puis j'étais un personnage, mais pas de perruque, qui s'appelait Marc Boilard. Ça fait que ça fuckait vraiment le monde qui aimait pas cette vibe-là, etc. C'était une période, moi, que j'ai trouvée enivrante, très honnêtement. Jouer un méchant, assumé, jamais débarqué de ton rôle, c'était vraiment hot. Ça fait que la monnaie, tu fais le tour de tout, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est mon inspiration était très lutte. Elle était pas du tout, j'aimerais ça être comme tel artiste, tel comédien, pas en tout. C'était incarner un méchant sachant très bien qu'est-ce que ça avait comme effet sur l'auditoire. Ce que je savais pas, c'est comment les gens de la business allaient embarquer là-dedans comme une bonne femme que j'essayais d'offusquer au dernier degré. Ça m'a surpris. C'était tout du monde que je connaissais personnel. Ça m'a surpris. Ça, j'ai vraiment fait comme, ah, ouais. OK, eux autres, là, ils sont pas contents pour vrai, là, ici. Ils catchent pas la coulisse, là. Ça, j'ai fait comme « wow ». Donc, que le spectateur ne catchait pas la coulisse, parfait, c'était la game, c'était voulu. Mais que la business, après, a fait comme « non, pas lui, ma secrétaire l'aime pas ». J'ai fait « hey boy ». Ça m'a vraiment surpris. Ça fait que, voilà, c'est chacun son adversité puis chacun ses patentes, hein, mais moi, ça a été celle qui m'a surpris. Maintenant, mon sujet principal, c'est Catherine Dorion, sur lequel j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Catherine Dorion, d'abord, le premier proverbe que je pense quand je pense à Catherine Dorion, c'est Andy Nolman de Just for Laughs qui m'avait dit ça, c'est « You never kick a dead dog ». Tu donnes jamais un coup de pied à un chien qui est mort. Tu donnes un coup de pied à un chien qui jappe, un chien qui te fait peur, un chien qui te dérange. Catherine Dorion a été, sérieusement, là, ça a été une des personnes publiques avec Justin Trudeau, qui, bizarrement, ne sont pas dans une mouvance identique, mais sont plus à gauche. Là, dans le cas de Dorion, c'est flagrant. Dans le cas de Trudeau, c'est plus la gauche bien pensante. C'est pas une gauche plus radicale, anticapitaliste, comme peut incarner Catherine Dorion. Mais tu vois que ça suscite une hargne. Tu vois en quoi c'est composé l'Amérique du Nord, parce que c'est exactement la même affaire aux États-Unis. Puis au Canada anglais, Canada français, là-dessus, il y a comme un genre de lien triste qui se fait. Puis quand je dis triste, c'est pas pour des allégeances politiques comme telles, c'est juste que j'en reviens pas, moi, d'haïr quelqu'un à cause de ses propositions. Ça me fait capoter, là. T'sais, c'est pas un pédophile, là. C'est Catherine Dorion, tu sais. Ça fait que ça, c'est une chose. Quand elle est partie, elle a dit il y a quelques jours qu'elle ne se présentait plus, qu'elle voulait continuer à militer, mais sous d'autres officines, que je crois pas du tout. Elle dit elle-même, on y est avec l'art, dans les bars, dans les... Je veux dire, c'est passé d'une réelle occasion de faire passer des idées à de la pure marginalisation. Donc, cette démarche-là, moi, je ne l'achète pas en tout. Moi, je pense qu'elle est tannée. Il y a un combat là-dedans qu'elle a dit. Soit que je ne le gagnerai pas ou qu'elle est brûlée, ça ne tente plus. Je respecte ça total. Mais de dire qu'elle va continuer de militer, ouais, OK, mais ça devient de l'anecdotique totale. Là, tu sais, c'est franchement... Fait que, bref. Puis là, dans un autre article, par contre, qui est sorti hier, là, a dit que l'Assemblée nationale, c'est une institution passée date. Puis qu'on peut pas. Et ça, c'est très intéressant parce que je peux pas témoigner de ça. Je peux juste dire qu'elle a dit que l'Assemblée nationale, on est coincé. Elle avait fait mention de ça, tout le monde en parle d'ailleurs, quand elle était passée la dernière fois. Puis j'avais trouvé ça très intéressant où elle disait, tu sais, le monde m'ont élu pour que je change les choses, mais c'est impossible. Puis c'est pas impossible parce qu'il y a pas assez de monde qui veulent que ça change. C'est impossible parce qu'une fois que t'es assis à l'Assemblée nationale, t'es dans un carcan qui fait que ce type d'idée-là passe pas. Moi, je trouve que tout ça se peut à 100%. Maintenant, Antoine Robitaille puis Mathieu Bock-Côté, dans le Journal de Montréal ce matin, disent un peu le contraire, à l'effet que, ben coudonc, si c'est pas via l'Assemblée nationale, comment tu vas faire pour changer quoi que ce soit? Tu vas-tu vouloir être dans rue à l'année longue au lieu de dire que tu t'en fais des projets de loi? Puis c'est quoi les projets de loi que tu as mis de l'avant? Puis quel texte que tu as mis? Alors, il y a une critique d'Antoine Robitaille qui, lui, couvre l'Assemblée nationale de près, qui est très intéressante, à l'effet que c'est peut-être juste aussi du chiolage de... Bon, moi, je suis habitué, j'écris des poèmes, je joue au théâtre, il y a du monde qui me suit, qui me trouve fantastique. Puis là, je suis allé dans un environnement où ma façon de procéder n'a pas d'assise. Ça fait que je ne sais pas c'est lequel des deux versions, mais ils ont du sens, les deux. C'est-à-dire que je pense effectivement que quand tu arrives à l'Assemblée nationale, tu es dans un carcan extrêmement rigide qui fait en sorte que, oui, toutes les idées sont techniquement permises et proposables, mais c'est pas vrai que ça peut passer, tu sais. C'est pas vrai que ça peut passer. La méthode change énormément le contenu. Les ressources changent le contenu. Si je te dis, tu vas me monter, je prends souvent l'exemple de la construction, mais si je te dis, tu vas me monter 38 étages, j'ai 2 millions de budget, on peut répondre, mais oui, mais tu peux le dessiner comme tu veux, ton 38 étages. Tu peux faire en vitre, en béton, en acier, en brique. Moi, je suis zéro regardant. Je veux juste que tu me montres 38 étages avec 2 millions de dollars. Comprenez-vous? C'est que c'est plus vrai, là, que... Ça fait qu'il y a un bout de ça. Je suis convaincu que Catherine Dorion a raison. Que quand tu arrives à l'Assemblée nationale, pour des raisons normales aussi, hein, en passant, c'est pas genre, ah, mon Dieu, parce que c'est une institution passée date. Je veux dire, si l'institution est passée date, il faudrait quand même proposer autre chose. Elle, ce qu'elle propose, c'est de débarquer du bateau. Ben, je suis désolé, mais je pense pas vraiment que c'est une bonne façon. Alors, elle pourrait dire c'est quoi les réformes qu'elle propose suite à son expérience. Elle est allée là 4 ans, si je me trompe pas. À toutes les semaines. Fait que si elle dit, voici ce que je trouve qui est poche, puis je veux faire comprendre à tout le monde que si ça change pas, il y a plein d'idées qui se rendront jamais nulle part. Moi, ce discours-là, je l'achète total. Mais OK, quoi faire? Sa réponse, moi, je m'en vais. C'est, je joue plus, bang, bang. Ça fait que je trouve ça un peu ordinaire. Ça fait que j'ai l'impression que Robitaille, il touche vraiment à quelque chose pour l'avoir observé de proche. Comme quoi, c'est un peu facile de dire, ouais, finalement, le système, il n'y a rien à faire, je débarque. Voyez-vous, quelqu'un qui pourrait tenir exactement ce discours-là, c'est moi avec la radio. Je pourrais dire non. Franchement, la radio parler, ils ne comprennent pas qu'il y a moyen de faire ça autrement, de parler de d'autres choses. Les gens en veulent, je l'ai vu. Ça fait depuis 2013 que je fais de la radio parler. J'arrive de la radio musicale commerciale. Donc, j'en ai mené large. Je connais très, très bien les environnements. J'ai vu que les gens y apprécient, y aiment ça du Marc Boilard, mais comme n'importe quoi, pas parce que je suis le seul qui le fait, mais d'arrêter d'être juste focusé sur les affaires publiques, d'avoir un ADN juste de journaliste, de parler aux gens de ce qui les touche eux-mêmes dans leur vie, comme ma chronique sur qu'est-ce qui fait qu'on est plate, qui a marché à mort. Ma chronique d'hier sur le livre de Lily Boisvert que j'ai fait avec Sylvain, que j'ai senti qu'il y avait eu des réactions puis tout. Il y a comme un autre auditoire, là, avec un autre propos qui... Puis quand tu te rends compte qu'ils font, ben on en veut, mais un peu. On en veut pas tant que ça. T'sais, ce qui est un peu le signal. Ben tu fais, ah, ben je vais faire un podcast, puis je vais écrire des livres, puis tu continues à... Mais tu t'en vas pas. Moi, j'ai pas dit, ah, oh, ben d'abord, manger de la marde. Si vous êtes pas capable de voir que moi, j'ai un apport différent de telle affaire, j'ai complété mon offre, mais je trouve ça tout à fait pertinent de continuer avec les bémols que je connais, du médium, de la radio, de tout ça. Ben, tu t'essayes, au contraire, de faire comme, non, de l'intérieur, il y a moyen de continuer d'envoyer un signal puis de dire, bon, ben, il y a des choses qui vont arriver. Ces choses-là arriveront peut-être pas en radio, mais manifestement, il arrive ailleurs. C'est que c'est ce que je pourrais reprocher à Catherine Dorion à la lumière de l'article d'Antoine Robitaille. Pour le reste, mais je trouve que c'est une fille qui a été courageuse, qui a assumé ses positions à mort. Puis j'en reviens pas, encore une fois, à la Safia Nolin, comment ça se fait qu'on peut s'acharner sur la fille qui s'habille en coton ouaté, comme si c'était si névralgique. Quand il y a un décorum, j'ai pas de problème avec ça. Je le suis, je suis pas révolté contre ça, j'essaie pas d'arriver puis de clasher, c'est pas mon genre. Clasher avec ce que j'ai à dire, oui, mais pas dans les codes là, vestimentaires ou autres. Je fais, je trouve ça un peu rebelle à Saint-Saëns, mais que ça suscite autant de hargne, je trouve ça bas de gamme. Honnêtement, je trouve ça bas de gamme. C'est-à-dire que, bon, elle s'habille de même, je trouve ça ordinaire. Point barre, là, tu sais. Ou un pis. Ça fait que voilà, c'était ça que j'avais le goût de vous dire ce matin. Et puis, je vous répète, marcboiler.com pour l'ensemble de l'œuvre, mais si vous voulez acheter mon livre, je regarde tout le temps mes ventes, c'est le fun, je vois ça bouger. Puis là, ça devrait commencer à bouger pour vrai, parce que je vais garder ça en dessous du radar pas mal. Au plaisir de vous lire.